Il est 10h passées de 11 minutes très exactement sur notre belle radio Campus Tour 99.5 FM. Et aujourd'hui, on se paye le luxe d'emmener notre studio mobile à la Maison de l'Europe, 97 boulevard Jean Royer. Voilà, on vous propose une émission spéciale pour découvrir les différents volontariats qui existent avec la Maison de l'Europe. Et j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau avec moi Astrid Courty. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission ici à la Maison de l'Europe. Est-ce que tout d'abord, vous voulez expliquer à nos auditeurs c'est quoi la Maison de l'Europe ?
Alors, la Maison de l'Europe de Tours donc, est une association loi 1901 qui existe depuis 1987, donc bientôt 35 ans, hein, puisque c'était le 13 août très exactement. Sa mission, c'est de former les citoyens sur l'Union européenne, le fonctionnement de l'Union, les programmes de l'Union européenne, notamment beaucoup la mobilité, on y reviendra dans cette émission, mais aussi les cultures des pays de l'Union européenne et rapprocher les citoyens entre eux, des autres pays et de l'Union européenne en général en favorisant en fait une connaissance mutuelle.
Alors former les citoyens, on imagine qu'il y a là une dimension politique tout en étant une association apolitique ?
Alors, en fait, on ne fait que relayer. On ne prend pas parti forcément pour l'Union européenne ou contre ou pour. On ne fait que relayer en fait ce qui se fait, expliquer le fonctionnement pour que les citoyens en fait se fassent une meilleure opinion ensuite de ce qu'ils peuvent voter lors des élections européennes, etc. On ne va jamais dire aux citoyens il faut absolument que vous votiez pour telle politique ou etc. Parce que chacun est libre de son choix. On essaye d'expliquer en fait les politiques de l'UE et surtout l'impact que ça a pour les citoyens.
D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que la Maison de l'Europe est une boîte à outils ? Parce qu'en fait, là, on est donc à la Maison de l'Europe et on voit qu'il y a énormément de documentation à disposition des jeunes et des moins jeunes sur toutes les thématiques. Donc, comment ça fonctionne ?
Alors, effectivement, nous avons la chance d'être labellisés Europe Direct, donc qui est un label européen. Et ce label nous apporte la possibilité de commander des brochures en nombre, donc des brochures qui proviennent pour la plupart de l'Office des publications de la Commission européenne, et donc qui sont des brochures souvent à destination donc, des grands publics et qui expliquent le fonctionnement des différentes politiques de l'Union, le fonctionnement de l'Union européenne et déclinées en fait un petit peu pour tous les niveaux. Il y a pour les enfants, donc c'est plutôt là on va avoir des coloriages, des choses très basiques ou des petits livrets de jeux, des choses comme ça. Pour les enseignants aussi, donc des manuels un peu plus complets pour expliquer comment fonctionne par exemple la prise de décision au niveau de l'UE, des choses comme ça. Et puis après, des brochures plus thématiques sur, par exemple, la politique migratoire en UE, les droits des consommateurs dans l'Union européenne, qu'est-ce que l'union douanière, plein de choses comme ça qui permettent en fait aux citoyens de s'informer de ce qui se passe en fait et de toutes des réglementations, des directives, de la politique en général de l'Union européenne.
Alors c'est une association, la Maison de l'Europe, comme vous nous l'avez expliqué. Est-ce que vous voulez nous dire qui est dans le bureau en fait ? Qui sont les membres du bureau de la Maison de l'Europe de Tours ?
Alors effectivement, nous avons donc un bureau et un conseil d'administration. Alors j'excuse notre présidente et notre vice-président qui n'ont pas pu être présents ce matin, mais ils sont encore en activité et donc en soit des formations, soit sont en voyage pour leur profession. Nous avons des bénévoles en fait. Hein. Ce sont des bénévoles administrateurs. Donc, certains sont encore en activité. Dont d'autres sont à la retraite et nous avons également un étudiant qui est dans notre conseil d'administration. Et donc nous avons Madame Bousquet qui est notre présidente, Monsieur Pierre-Yves Monjal qui est notre vice-président et Monsieur Mathieu Serrault qui est aussi vice-président, donc qui est notre étudiant vice-président. Madame Liliane Barito, qui est notre secrétaire générale, ainsi que Madame Suzelle Vandemine. Et nous avons donc trésorier et trésorier adjoint, Monsieur Alain Aubenot et Monsieur Serge Gonneau, donc qui sont nos membres du bureau.
Et alors, ces personnes, est-ce que dans le cadre de leurs activités ou de leurs études, elles sont liées à l'Europe?
Alors, pas toutes. Pas toutes. Alors, nous avons quand même beaucoup de professeurs qui sont donc issus du milieu de l'enseignement, soit des professeurs d'histoire-géo, effectivement. Madame Bousquet est professeure d'histoire-géo et surtout médiéviste à l'Université de Tours. Monsieur Pierre-Yves Mongeat, lui, est dans le droit public et effectivement spécialisé dans le droit européen. Donc, c'est notre juriste un peu européen. Donc, voilà, qui nous aide beaucoup sur certaines affaires que nous avons à régler avec des citoyens. Mais sinon, ce sont parfois des personnes qui s'intéressent tout simplement aux questions européennes en tant que citoyens.
Voilà, donc on imagine que ça donne des compétences particulières aussi à la Maison de l'Europe. C'est un réseau national aussi, les Maisons de l'Europe, peut-être qu'on peut le rappeler.
Tout à fait, effectivement. Donc déjà, d'avoir un peu des personnes venant d'horizons différents au sein de l'association, c'est une richesse hein, pour nous. Et effectivement, nous sommes aussi un réseau national au niveau des Maisons de l'Europe. Nous faisons partie de la Fédération française des Maisons de l'Europe. Nous sommes 38 maisons à en faire partie. Et cela nous apporte une force de réseau. Nous partageons des outils, nous partageons des idées, des bons plans, des astuces, etc. La Fédération nous propose des formations aussi hein, pour les bénévoles ou les salariés et les salariés aussi, je devrais dire, donc des maisons de l'Europe et aussi des conseils, par exemple au niveau national. Je pense lorsque nous avons dû prendre des assurances obligatoires, l'assurance santé obligatoire en 2016, la Fédération française a négocié avec une assurance pour un tarif au niveau des maisons de l'Europe. Voilà, des petites choses comme ça hein, au niveau fédéral qui peuvent aider nos maisons. On n'a pas toujours le temps ou les compétences aussi de le faire. Et donc là, c'est une vraie aide pour nous. excusez-moi. Et donc, nous faisons aussi des projets ensemble au niveau des maisons de l'Europe.
Et donc, vous mentionnez à juste titre les salariés des maisons d'Europe. Hein, bah, évidemment, ils sont très importants pour le fonctionnement de ces associations. Donc, vous-même, Astrid Courty, et votre collègue Julie Dorkeld. Alors, est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus sur vos missions respectives?
Oui, alors effectivement, les salariés sont importants au niveau des maisons de l'Europe, mais toutes les maisons d'Europe n'ont pas forcément des salariés. Alors ça, je tiens à la rappeler. Il y en a certaines qui ne fonctionnent qu'avec des bénévoles. Nous avons la chance, effectivement, d'être deux personnes, mais pas forcément à temps plein. Hein. Enfin, moi, je suis à temps plein, mais ma collègue Julie n'est pas à temps plein. Nous, c'est aussi à cause ou à grâce au label Europe Direct que nous devons avoir au minimum un salarié. Et c'est la même chose pour toutes les structures qui sont labellisées Europe Direct. Les salariés, alors moi par exemple, je suis la chargée de mission, je suis aussi responsable Europe Direct. Donc c'est moi qui vais superviser tout ce qui est en lien avec la communication essentiellement donc sur Europe Direct, donc la communication au niveau général sur l'Union européenne et de la Maison de l'Europe. Je prépare aussi donc des activités, hein, la fête de l'Europe par exemple qui a eu lieu le 15 mai cette année, même si la journée de l'Europe c'est le 9 mai. On ne peut pas toujours être pile poil la journée. Je supervise aussi un petit peu hein, tout ce qui est question de budget, etc. Je coordonne aussi les équipes, hein, puisque nous accueillons donc, des stagiaires, des volontaires. Nous aurons aussi l'occasion d'y revenir. Voilà, je suis un petit peu en charge de toute cette coordination. Je rencontre aussi des partenaires pour monter donc des projets futurs ou continuer des projets en cours. J'assiste aux réunions de réseau, notamment des associations européennes en région Centre-Val-de-Loire, hein, avec le réseau Europe au Centre, animé donc par la région Centre-Val-de-Loire. J'assiste aussi aux réunions d'Europe Direct, soit en France, soit en Europe, comme ce fut le cas récemment à Milan. Voilà, je participe aussi à des événements qui sont organisés donc par d'autres structures. Nous serons par exemple à la fin du mois au Festival des Horizons, organisé par la ville de Saint-Avertin, ou encore à Amilly, dans le Loiret, qui nous ont sollicité pour participer à leur fête de l'Europe début juillet.
Voilà, et donc on aura le plaisir d'entendre Julie Dorkeld plus tard dans cette émission également. Justement, vous expliquez qu'il y a énormément d'actions qui sont menées ici à la Maison de l'Europe. Est-ce qu'il y a eu un effet Covid sur vos projets au cours de ces deux dernières années ?
Alors, effectivement, on va dire qu'on n'a pas échappé à la vague Covid, hein, comme toutes les associations. Alors, nous avons quand même eu la chance de pouvoir convertir énormément de nos actions en numérique. Et pour ça, je dois remercier Julie, justement, qui est ma collègue, qui me remplaçait à ce moment-là pendant un congé maternité et qui a eu des compétences vraiment numériques et qui a su transformer des cafés européens, par exemple, qui étaient prévus en présentiel. Elle a su les transformer en numérique. Et ça, vraiment, ça a été très précieux. Elle a d'ailleurs aussi aidé le réseau et les collègues qui étaient un peu perdus à ce moment-là. Et on s'est tous soutenu les coudes, que ce soit au niveau des Maisons de l'Europe ou du réseau Europe Direct. Vraiment, il y a eu vraiment un effet de réseau. Et d'ailleurs, pendant cette période, le réseau Europe Direct a développé des jeux Canapé Europe, un hashtag Canapé Europe, avec des jeux proposés par toutes les structures labellisées pour justement pouvoir faire en sorte que les citoyens continuent à apprendre des choses de façon ludique depuis leur canapé. Alors bien sûr, il y a eu des ralentissements, surtout sur notre présence en région, en fait, hein, parce que là, tous les événements ont été annulés. Il a fallu reprendre pour reprendre des contacts. Mais heureusement, on a quand même senti à partir, on va dire, de fin 2021 et surtout là, 2022, une vraie envie de reprendre les activités et de nouvelles sollicitations ou des sollicitations qui n'avaient pas pu se faire, qui, effectivement, ont pu reprendre quand même. On a réussi quand même à mener quelques actions, notamment des interventions auprès des scolaires. Alors, pas forcément, par exemple, avec plusieurs classes mélangées, mais auprès d'une classe à la fois. Donc, les interventions en milieu scolaire, même si elles se sont réduites, ont quand même pu avoir lieu pour la plupart. Donc ça a été aussi un soulagement, même pour les professeurs. En revanche, là où ça a beaucoup pâti, et notamment au niveau des scolaires, hein, ce sont les mobilités. Les mobilités, notamment dans le cadre du programme Erasmus+, car toutes les mobilités dans ce cadre se sont arrêtées, malheureusement, pendant quasiment 2 ans. Mais nous avons eu la chance, au niveau du corps européen de solidarité, de pouvoir toujours accueillir quelques jeunes et aussi d'en envoyer. Et ça a vraiment été, même pour les jeunes, un gros soulagement.
Alors, corps européen de solidarité, on y reviendra plus tard dans cette émission, mais peut-être juste un mot sur Erasmus+, parce que comme on est une radio étudiante, on connaît bien ce programme-là, mais ça, c'est différent, je crois.
Alors, non, pas vraiment. En fait, c'est effectivement le programme le plus connu, hein, qui est pour la mobilité, alors, bien sûr, des étudiants, mais aussi des apprenants en général, hein, lycéens, apprentis, et aussi du personnel administratif, soit les documentalistes, les comptables des établissements scolaires, des universités, mais aussi bien sûr les enseignants ou les chercheurs qui peuvent vivre une mobilité auprès de partenaires. Mais il y a également, et ça c'est beaucoup moins connu, les structures jeunesse. Les structures jeunesse peuvent bénéficier, et les travailleurs jeunesse, hein, donc travailleurs jeunesse, animateurs de rue auprès des jeunes, des animateurs socioculturels qui travaillent avec les jeunes, des personnes qui travaillent en mission locale par exemple, peuvent bénéficier du programme Erasmus+, pour rencontrer par exemple des homologues dans d'autres pays, voir comment ils se débrouillent sur certaines questions ou avec certains types de publics, des profils différents. Par exemple, je pense à l'Italie qui fait un gros travail avec les réfugiés issus, pas forcément d'Ukraine, là c'est notre actualité en ce moment, mais ils avaient commencé bien avant avec des réfugiés syriens ou venus des pays d'Afrique, etc. Donc il y a vraiment des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous, en fait, dans l'accueil de ces personnes en situation de migration, etc. Et il y a beaucoup à échanger avec eux pour voir ce qu'ils font et quels sont les outils qu'ils développent et des projets mis en place pour accueillir au mieux ces personnes. L'Allemagne aussi, bien sûr, est à la pointe dans ces questions-là pour renouveler leur force de travail. L'Allemagne, ils ont des besoins aussi en force vive. Donc, ce programme peut bénéficier, nous par exemple au niveau de la Fédération française des maisons de l'Europe et des maisons de l'Europe, nous pouvons bénéficier de ce programme pour vivre une situation d'observation en situation de travail, donc ce qu'on appelle en anglais le job shadowing, c'est un peu plus court aussi, ou bien des formations. La fédération en fait a réalisé un projet, et a demandé un projet et a obtenu un projet auprès de l'agence donc, de Bordeaux pour financer un certain nombre de mobilités dans les maisons de l'Europe. Donc, que ce soit des bénévoles, des volontaires ou bien des salariés des maisons de l'Europe.
Merci. Et on peut aussi signaler, donc vous avez mentionné la Fête de l'Europe, les cafés européens, et je crois qu'il y a aussi des programmes dans les médias locaux. Vous êtes très actifs dans les médias locaux aussi.
Tout à fait. Alors, nous avons une émission mensuelle de 43 minutes sur RCF Touraine, hein, qui est diffusée en Indre-et-Loire et en Loire-et-Cher. C'est un peu, entre guillemets, notre partenaire historique, parce que nous faisons donc des émissions de radio depuis 2015 avec eux. Je n'oublie pas non plus de mentionner notre correspondant local de la Nouvelle République, hein, qui sur le quartier La Canale Strasbourg, qui nous suit depuis de très nombreuses années et qui relaie nos actions dans le journal local donc de la Nouvelle République. Et un peu plus récemment, nous avons effectivement un partenariat avec TV Tour et nous avons une chronique mensuelle donc de 5 minutes dans l'émission Tilt, une fois par mois, donc en général à peu près à la mi-mois. La prochaine, ce sera d'ailleurs lundi 13 juin, donc lundi prochain, sur ce que fait l'Europe pour les personnes fuyant le conflit en Ukraine, donc soit en l'Europe, mais aussi au niveau local.
Donc là, on voit bien que par le biais des médias locaux, vous touchez, donc pour Tilt, peut-être un public large. Et sur RCF, qu'en est-il ? C'est des émissions thématiques ? De quoi il est question ?
Alors sur RCF, nous avons effectivement des émissions thématiques. Comme ce sont des émissions de 43 minutes, nous avons toujours un invité, un ou deux parfois, et qui va aller un peu plus au fond d'un sujet. Nous avons par exemple eu la chance de recevoir Monsieur Lamassoure, ancien ministre et ancien député européen, donc pour l'émission du mois d'avril. Et il nous a expliqué, comme il était ancien député européen, mais aussi ancien ministre qui avait fait donc participer au Conseil de l'Union européenne, hein, le Conseil des ministres, comment ça se passe en fait au niveau des institutions de l'intérieur. Qu'est-ce que c'est vraiment que le travail d'un député? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est député européen? Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on est ministre et que l'on va au Conseil de l'Union européenne? Voilà, un petit peu des choses qui finalement nous échappent un peu, nous, en tant que citoyens, qui voyons les choses relayées par les médias ou bien de l'extérieur et qui finalement fantasmons aussi beaucoup, je pense, sur ce qui se passe dans ces institutions.
Et avant de faire une pause musicale, Astrid Courty, il me semble qu'en 2012, la Maison de l'Europe de Tours a reçu un agrément jeunesse éducation populaire. Alors, il se trouve que Radio Campus a également cet agrément-là. Est-ce que vous voudriez nous en dire plus, en fait, pourquoi cet agrément, quel sens ça a ? Parce que éducation populaire, c'est un terme qui est revenu très à la mode, qu'on entend beaucoup, pour des sens très variés. Donc, j'aimerais savoir qu'en est-il de la Maison de l'Europe de Tours ?
Alors, en fait, l'éducation populaire, c'est un peu l'essence même, je dirais, des Maisons de l'Europe, puisque tout à l'heure, on a parlé de formation, hein, la Maison de l'Europe a pour but de former les citoyens sur l'Union européenne, mais on ne le fait pas de façon forcément formelle ou de la même façon qu'un professeur le ferait à ses élèves. D'ailleurs, ce n'est jamais sanctionné par des notes à la fin des sessions d'intervention. Mais on le fait plutôt de façon souvent ludique, sous forme de quiz, sous forme de jeux. D'ailleurs, on développe aussi beaucoup de jeux au sein de notre Maison de l'Europe ou au sein du réseau et des réseaux, hein, puisque Europe Direct aussi développe des jeux, mais la Maison de l'Europe aussi. Et donc, c'est un peu l'essence de la façon d'instruire en fait, les jeunes et les moins jeunes plutôt en passant par des méthodes moins formelles, moins éducation nationale, mais plutôt justement dans le jeu, dans le ludique, dans l'échange beaucoup aussi, pour que les citoyens puissent échanger avec les intervenants divers.
Merci Astrid Courty. Donc une pause musicale va arriver et restez avec nous chers auditeurs puisque nous allons poursuivre cette émission et nous aurons le plaisir de recevoir sur notre plateau Laura Hernandez pour parler du corps européen de solidarité. Alors qu'est-ce qu'on va écouter Sébastien ?
Puisqu'on est dans une matinée européenne, on va aller dans deux pays qui sont rentrés dans l'Union européenne en 86. Mais bon, je triche un peu, j'ai la carte postale avec toutes les entrées de l'Union européenne sous les yeux. On va aller en Espagne, mais on va aller en Galice, donc pas très loin non plus du Portugal. On va écouter Radio Tutti et Barilla Sisters. C'est un groupe qui a mis à l'honneur les chants d'Europe du Sud. C'était en 2020-2021 en tout cas. On va écouter le titre Rumba Morena et c'est tout de suite sur Radio Campus Tour.
99.5.